Alors, la semaine dernière, on a vécu une série d'attentats dramatiques. La France est encore endeuillée. Et on a vu cette semaine, donc les forces de l'ordre commencer à investir un peu toutes les grandes villes de France et même jusqu'en Belgique pour essayer d'interpeller soit les coupables, soit ceux qui peut-être pensent faire la même chose, qui sont susceptibles de faire la même chose. Les frontières se sont brusquement fermées. Même dans la gauche, on parle de revenir sur les accords de Schengen. C'est assez incroyable. Les concerts, les manifestations, tout ça, eh bien, ça a été fermé, en tout cas annulé. Les grands magasins renforcent leur sécurité. Il y a des caméras de plus en plus. On en rajoute. On fait appel à des sociétés privées pour surveiller. Et il y a toute une inquiétude qui monte, parce que, eh bien, on voit aussi tous ces réfugiés qui continuent à affluer, qui sont dans le besoin. Mais au travers d'eux, eh bien, certains peuvent être des kamikazes, comme ce fut le cas pour les coupables de ces attentats. Alors, il faut savoir que les attentats dus à l'islamisme radical, c'est un phénomène qui est exponentiel. Et c'est assez rapide de voir. En fait, il suffit de regarder les dernières décennies. Alors, par exemple, de 1980 à 1989, il y a eu 3 attentats liés à l'islamisme. De 1990 à 1999, il y en a eu 9. Et de 2000 à 2009, donc la décennie où il y a eu ce tragique attentat du 11 septembre 2001, il y en a eu 42 en 10 ans. 42. On avance maintenant, on prend pas une décennie, on prend 5 ans. 2010 à 2014, en 5 ans, il y en a eu 51. Plus que en une décennie, la décennie précédente. Et en 2015, une seule année, il y en a eu 25. Et 26 maintenant avec le Cameroun qui vient d'arriver là ce week-end. Et donc on voit l'insécurité, la violence commence à monter, et pourtant dans des pays, en tout cas la plupart, qui sont en paix et qui n'ont pas raison d'avoir des scènes de guerre chez eux. Et c'est comme si à partir du 11 septembre, puisque c'est le début de cette décennie où ça a explosé au niveau des attentats, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et en même temps, on se dit, mais c'est comme s'il y a le compte à rebours là qui s'emballe et qui amène vers quoi ? Ben, le retour de Jésus. C'est le retour du Seigneur. Jésus revient bientôt. Et ce matin, j'aimerais vous parler donc du retour de notre Seigneur. Parce que ce que nous vivons, que ce soit les guerres à l'extérieur ou bien les attentats à l'intérieur, ne fait qu'annoncer finalement que Jésus revient. Et plus le monde se sent dans l'insécurité, plus la surveillance augmente, plus on avance vers une société qui est contrôlée, qui est fichée, il faut que voilà, on prenne de plus en plus les empreintes, hein. Les gouvernements l'imposent, et le monde se dit, mais c'est nécessaire en fait, c'est indispensable, et c'est du bon sens, bien sûr, même nous on arrive à se le dire, c'est du bon sens, paix et sécurité. Il faut la paix, il faut la sécurité. Mais bien sûr, vous connaissez ce passage, hein. La Bible dit que quand les hommes diront paix et sécurité ou sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Et donc, on voit que la situation d'insécurité, elle est en train de préparer le futur, préparer, eh bien, certainement une puce électronique, hein, qui sera mise dans la main ou dans le front, comme dit l'Apocalypse. Paix et sécurité. Il faut cette paix, il faut cette sécurité. Et donc, l'idée de mieux surveiller, de mieux contrôler pour endiguer le mal, eh bien, c'est les prophéties, en fait, qui sont en train d'avancer. Et ça signifie le retour de Jésus. Jésus revient bientôt. La Bible parle 9 fois de la nouvelle naissance. Elle parle 20 fois du baptême. Elle parle 70 fois de la repentance. Elle parle 300 fois du retour de Jésus. C'est Fernand le Grand qui a fait ses calculs. Incroyable. 300 fois le retour de Jésus. Et on se dit, mais pourtant c'est quelque chose qu'on peut souvent reléguer un peu sur le côté, on l'oublie. Voilà, même on le sait intellectuellement, bien sûr, Jésus revient, on le sait. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui nous habite en se disant, mais voilà, il faut que je sois prêt. Jésus revient, il faut que je sois prêt. On va lire Matthieu 24, 36 à 51. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors la Bible emploie le mot « avènement » pour parler du retour de Jésus. Quand vous voyez l'avènement, eh bien en fait c'est le retour de Jésus. Et on peut dire que cet avènement, ce retour, va se passer en deux étapes. Tout d'abord, Jésus-Christ va revenir sur les nuées pour prendre son Église. On l'a illustré tout à l'heure avec l'idée de cet aimant qui va attirer, il va y avoir un pouvoir d'attraction, tous les enfants de Dieu, sera irrésistible, oh, on va être emporté à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et puis ensuite, il va y avoir cette période de la tribulation, et donc on pense qu'il va durer 7 ans, et Jésus va revenir, mais cette fois de manière glorieuse, et cette fois ça va être pour juger la terre. Et la Bible dit que là, il va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers, de même qu'il a été enlevé, il va revenir de la même manière, et il va juger la terre et permettre une nouvelle ère, le millénium. On va entrer dans une ère de paix qui va durer 1000 ans. Et notre texte que nous venons de lire ici, c'est dans Matthieu 24. Et Matthieu 24, 25, ces deux chapitres nous enseignent précisément sur cette période de la tribulation qui dure 7 ans. Donc entre l'enlèvement des chrétiens et puis le retour en gloire du Seigneur Jésus quand il va venir juger la terre. Et l'erreur qui peut être faite, c'est de mélanger en fait le retour de Jésus qui est en deux étapes. L'enlèvement et puis son retour en gloire. Et quand on lit par exemple le verset 40, il dit « Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux hommes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. » On peut se tromper et se dire « Ça c'est l'enlèvement de l'Église. » En fait, les chrétiens sont enlevés et puis les incroyants sont laissés sur la terre. Mais en fait, ce passage-là, précisément celui-là, ce n'est pas l'enlèvement de l'Église. C'est pas l'enlèvement de l'Église. Quand vous regardez les versets qui précèdent, il est parlé de Noé et des hommes de son temps. Est-ce que Noé a été enlevé? Non, il est resté sur terre. Et c'est les méchants qui ont été emportés par le jugement, ont été enlevés de la terre. Et Noé, avec sa famille, a repeuplé la terre et a continué à vivre sur la terre. Et de la même manière ici, c'est le prolongement, nous sommes à la fin de ce chapitre 24, et il dit juste après Noé, « Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. » Ça veut dire l'un sera pris parce qu'il sera jugé, et l'autre sera laissé pour entrer dans le millénium, de la même manière que Noé. Ensuite, dans ce chapitre, Jésus est en train de conclure. Durant tout le chapitre 24, il a expliqué les signes qui concernent son retour en gloire. Il dit il y aura des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre. Et puis, il va parler de l'abomination de la désolation. L'abomination de la désolation, c'est quand l'Antéchrist va entrer dans un temple reconstruit à Jérusalem et va probablement faire un sacrifice, quelque chose d'abominable pour souiller le temple. Ça va se passer au milieu de la tribulation. Et donc les événements s'enchaînent et nous sommes ici dans la tribulation, au cœur de la tribulation. Ensuite, quand on analyse le chapitre suivant, là c'est chapitre 24, chapitre 25, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit d'un développement des conditions pour être sauvé dans la tribulation. Qui sera sauvé dans la tribulation, dans ce temps où les jugements vont tomber sur la terre ? Qui sera digne d'entrer dans le millénium, dans l'ère de mille ans de paix ? Eh bien, en outre, ceux qui auront refusé le chiffre de la bête, mais aussi, hein, il le dit dans trois paraboles, les vierges sages, celles qui ont eh bien, gardé de l'huile, ceux qui ont bien utilisé leur talent, ce qu'ils possèdent, et puis ceux qui ont accueilli le plus petit des frères de Jésus. Et donc, eh bien, ces trois critères vont permettre de déterminer mais qui a été fidèle, qui est resté attaché à Jésus-Christ, à Dieu, durant cette période de la tribulation, alors qu'il n'a pas été enlevé avec l'Église. En Matthieu 13, il y a une parabole intéressante, c'est la première parabole que Jésus donne, c'est celle du semeur. Il sème, un homme sème du blé dans son champ, et puis vient un ennemi qui sème de l'ivraie. Vous vous souvenez de cette parabole ? Et alors à la fin, il est dit, les serviteurs disent au maître, « Veux-tu que nous l'arrachions ? Que nous allions l'arracher, cette ivraie ?» Et le maître dit aux serviteurs, « Non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. » La moisson, eh bien, c'est la tribulation. « Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, « Arrachez d'abord l'ivraie. » Et liez-la en gerbe pour la brûler. Et pour le blé, amassez-le dans mon grenier. C'est-à-dire, eh bien, c'est les croyants qui vont entrer dans le millénium. Ceux qui ont été fidèles durant la tribulation. Ceux qui ont traversé victorieusement la tribulation. Ils ont refusé la marque de la bête. Ils ont voulu accueillir eh bien, le plus petit des frères de Jésus, les Juifs. Ceux qui auront été persécutés durant la tribulation. Et ils continueront à vivre sur terre. Mais ça, ce n'est pas ce que nous attendons. Qu'est-ce que nous attendons ? On attend l'enlèvement. On attend d'être enlevé avec lui sur des nuées pour l'éternité. Et dans l'épître aux Thessaloniciens, on voit Jésus qui vient chercher son épouse. Un peu comme un fiancé qui prend son épouse par le bras, par le corps, et puis qui l'emporte pour les noces de l'agneau. Paul dit... Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Il ne nous a pas destinés à la colère. Et on a vu dans ces passages de l'Apocalypse qui viennent d'être lus, la colère de l'agneau. Eh bien, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Néanmoins, il y a quelque chose de commun entre le retour de Jésus sur les nuées, qui va venir prendre son Église, et puis le retour de Jésus en gloire pour permettre d'entrer dans le millénium. C'est que pour l'enlèvement, comme pour le retour en gloire, pour les deux, eh bien Jésus va revenir d'une manière qui est soudaine. Ça va être d'un seul coup, pour les deux. Pour nous, chrétiens, qui sommes en train d'attendre le Seigneur, il est dit que ça arrivera comme un clin d'œil. Un clin d'œil, c'est bref, c'est rapide un clin d'œil. On n'aura pas le temps de réagir, pas le temps de finir ce que nous faisons, pas le temps de changer d'activité si jamais nous sommes en train de faire une activité qui n'est pas très louable devant Dieu. On n'aura pas le temps d'arrêter et dire « Oh, je vais changer ». Non, ça sera trop tard. Pas le temps de changer d'état d'esprit. Si on est en train de bouder, si on est en train de murmurer, si on est dans l'amertume, si on ne pardonne pas, si on est en colère, on n'aura pas le temps de changer. Ça va être d'un seul coup. On ne pourra pas dire « Ouh, le Seigneur est là !»« Vite, je me repens, Seigneur, pardonne-moi !» Non, un clin d'œil. Il nous prendra là où nous sommes, dans l'état où nous sommes. Mais pour les autres aussi, à la fin de la tribulation, quand Jésus va revenir en gloire, ça va être soudain. Ils ne pourront pas changer d'une manière brusque. Ils ne pourront pas dire « Ah, ça y est, Jésus est là. Je me repens, je crois en toi, Seigneur Jésus. » Non, ça sera trop tard. puisqu'il est dit qu'il viendra comme un voleur. Un voleur, il arrive, il nous surprend. Il y en a qui se sont fait surprendre là dans leur sommeil, le voleur est entré dans leur champ, il a allumé la lumière pour dire qu'est-ce qui se passe. Verset 36, on lit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Personne ne sait exactement quand ça va arriver. Donc les prédictions et tout ça, c'est même incroyable que certains arrivent à prédire et à dire « ça va arriver tel jour, telle heure, mais ne lisent-ils pas la Bible ?» Personne ne sait, même le Fils. Donc ça va être une surprise pour les justes comme pour les méchants. Ça va être une surprise. Et ma question ce matin, c'est est-ce que nous sommes réellement prêts pour le retour de Jésus ? Remettre cette question devant nos yeux. Qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas encore vraiment enfant de Dieu. Verset 42, il dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Personne ne le sait exactement. Alors on en voit les signes. Les plus réveillés se doutent, se disent « ça ne va pas tarder, là, il faut qu'on soit vraiment vigilant, attentif. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain, ou dans un an, ou dans 10 ans, mais il faut être alerte, éveillé. » Par contre, les incroyants, eux, ils se doutent de rien, strictement rien. C'est ce que nous dit Jésus, ils ne se doutèrent de rien. On s'amuse, on fait la fête, on profite, on va voir un match, on boit. Et puis un jour, tout va s'arrêter subitement. Versets 43-44. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et chaque fois que Jésus parle de son retour en gloire, à la fin de la tribulation, à chaque fois, il est mentionné cette idée du voleur. Le voleur qui arrive et qui surprend. Et c'est sûr, si on savait qu'un voleur vient, on se barricade, on se protège, on est sur nos gardes. Il y a plusieurs années maintenant, la veuve de Darry Cole s'est fait cambrioler. En fait, c'est arrivé donc suite au décès de son mari et elle était partie dans sa famille. Et apparemment, ils se sont doutés qu'elle n'était pas là. Et donc, ils ont cambriolé et elle s'est insurgée. Elle a dit, mais comment, c'est ignoble de faire ça, etc. Mais c'est sûr que le voleur, il vient au moment le plus propice pour justement cambrioler. Ou dans la nuit, lorsque les gens dorment. Et la différence entre Christ et le voleur, c'est que Christ nous prévient. Il nous dit, je viens. Tenez-vous sur vos gardes, je viens bientôt. Est-ce que le Seigneur nous demande ? Il nous dit, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Est-ce qu'on est prêt pour son retour ? J'aimerais prendre un autre passage. C'est Luc 12, versets 35 à 38. Il dit, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Alors ici c'est intéressant parce que le passage dit c'est un maître qui revient des noces. Donc ça fait référence à la fin de la tribulation. Quand le Seigneur revient des noces avec nous, l'épouse, il est marié et nous sommes mariés avec lui. Mais j'aimerais prendre ce passage et l'appliquer à nous-mêmes parce qu'on peut aussi en faire une application à nous-mêmes. Et il nous donne deux recommandations. Il dit d'avoir les reins sains et les lampes allumées. Quand on a les reins sains, c'est qu'on veut travailler. Il y avait autrefois, c'était plutôt des robes amples, on enlevait la ceinture quand on se reposait ou on mangeait. Puis quand on allait travailler, on mettait la ceinture et on serrait. Même aujourd'hui, même moi j'ai acheté une ceinture, donc ça fait du bien de se serrer les reins, que l'on soit avec un petit mal de dos ou bien qu'on n'ait pas envie d'en avoir un, et donc se ceindre les reins. Et Jésus dit que vos reins soient sains. Autrement dit, mais soyez à l'œuvre, travaillez. Travaillez pour mon royaume, soyez actifs, bougez, combattez pour la foi. C'est ça, se ceindre les reins. Et Dieu souhaite nous travailler, nous trouver en train de travailler. Travailler pour lui. Pour nous chrétiens, il y a 5 domaines dans lesquels il nous est possible de, on peut dire, ceindre nos reins. D'abord, c'est prier. Prier, prier, encore prier, toujours prier. C'est sûrement la chose qui est le moins populaire, hein, le fait de prier, parce que ça demande de l'effort de prier. C'est un effort, un réel effort. On donne de son temps, on donne de sa consécration et de sa concentration au Seigneur pour faire sa volonté. C'est un peu, et c'est crucifier sa chair, hein. La chair, à part quand elle veut faire des exploits et le dire aux autres, elle n'aime pas prier. Elle n'aime pas prier. Et c'est dur de s'arrêter alors qu'on est en train, il y a tellement de choses à faire, s'arrêter et dire je vais prier. Voilà, je me mets à genoux et je vais passer du temps avec le Seigneur et je vais vouloir remporter des victoires, non pas par mon activité et ma chair, mais remporter des victoires en comptant sur lui. Et après, eh bien, je serai dans l'activité, mais j'ai d'abord compté sur lui. Et donc ça sera sa victoire. Ça sera sa gloire à lui. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est aussi quelque chose qui est dans l'ombre, qui est caché. On le voit pas, ça. C'est invisible. Il n'y a pas de gloire, hein, visible pour nous. Prier. Mais c'est ce que Dieu nous demande. C'est ça, se ceindre les reins. Vouloir que les âmes soient sanctifiées, que les âmes soient sauvées, vouloir que l'œuvre de Dieu progresse, vouloir que nos frères et sœurs soient encouragés, vouloir qu'ils soient soutenus dans la foi. Deuxièmement, témoigner. C'est ce qui demande peut-être le plus de courage. Aller au-devant des gens et oser partager sa foi, dire ce que Jésus a fait pour nous. C'est surmonter des réactions, des critiques, parfois même de la persécution, en tout cas si elle n'est pas physique, mais verbale. Et c'est vraiment difficile. Et il faut du courage pour témoigner de Jésus-Christ. Mais c'est se ceindre les reins. Hein, et quel bonheur si on est trouvé par le Seigneur en train de témoigner quand il revient nous chercher, ou on est trouvé en train de prier. C'est une gloire. Troisièmement, soutenir financièrement son œuvre. Et je ne pense pas forcément au fait de donner dans l'offrande le dimanche matin, par exemple, au culte. Parce que finalement, je me dis, moi, ce que je donne, en tout cas, dans l'offrande, eh bien, c'est juste la reconnaissance de ce qu'il m'a donné. C'est simplement en fait, c'est pas un devoir, c'est mon dû. Je le fais parce que j'estime le devoir. Il dit, David disait, « Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes ? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » C'est quelque chose de logique, de normal, que de rendre à Dieu ce qu'il nous donne. Mais quand je dis soutenir, je pense en fait à l'idée de soutenir au-delà. Soutenir un serviteur, soutenir un missionnaire, soutenir une œuvre qui travaille pour le Seigneur. Et être fidèle, eh bien, c'est bien gérer ce que je possède. Voilà, je sais, je donne ça là, je confie ça là. Je suis très touché de voir des gens qui envoient des dons pour l'acquisition de notre local. Je me dis, incroyable, des généreux dons. Et je me dis, mais ils pourraient l'employer à autre chose, hein. On a toujours besoin d'argent. Mais voilà, ils le donnent. Ils ont envie de voir que l'œuvre de Dieu avance. C'est un sacrifice qui est agréable au Seigneur. Quatrièmement, se ceindre les reins, c'est aussi communier. Et je prends ce terme dans le sens de vivre la communion fraternelle. On a besoin de vivre la communion ensemble. C'est vivre au milieu de mes frères et sœurs, les aimer, les exhorter, m'intéresser à eux, avoir un désir de savoir ce qu'ils vivent, de porter leur fardeau, de compatir avec ceux qui souffrent, de rire avec ceux qui sont joyeux, qui se réjouissent. Là, on se réjouit pour Fanette et François, ça y est. Hein, ils ont un travail, puisque François part à la Réunion. Donc ils vont partir à la Réunion, c'est une bénédiction pour eux. On se réjouit, on est triste de les voir partir, mais on se réjouit. Moi je me réjouis, je me dis mais merci Seigneur, mais c'est quelle bénédiction après cette attente. Hein, Dieu leur donne la chose parfaite, sachant qu'il y a la famille de Fanette qui est là-bas, son père, sa belle-mère qui est au Seigneur, sa belle-mère au Seigneur. Se réjouir avec ceux qui se réjouissent, aimer ses frères et sœurs, s'inviter. Se soucier des autres. Cinquièmement, se cindre les reins, c'est aussi servir, servir dans l'église locale. Il y a beaucoup d'œuvres qui sont préparées d'avance, qui sont à faire dans l'église locale. Dieu nous donne des capacités, des dons, il nous fait des dons pour qu'on les mette au service des autres. Il y a des choses qui sont pratiques, des choses matérielles, basiques, manuelles, administratives, intellectuelles, d'aide, musicales, d'organisation. L'église est une organisation et tout fonctionne bien quand chacun a envie de mettre sa part et de... Voilà, c'est ça la bénédiction. Et là, on se ceint les reins, on est en train d'avancer, de marcher avec le Seigneur. Il y a un pasteur qui m'a raconté que dans son église, il y a un homme âgé qui a refait tout du carrelage, comme, un peu comme ça, une pièce derrière. Et puis quand il a fini son carrelage, le Seigneur l'a repris. C'est voilà, une œuvre achevée. C'est saisissant, hein, et c'est beau. Voilà, on est au service, puis quand le Seigneur dit c'est bon, hop, il nous reprend. Et on est avec lui pour l'éternité. Dieu veut que nos reins soient saints. Est-ce qu'on a le sentiment, voilà, je prends ma part, je sers le Seigneur. Est-ce que je suis prêt pour son retour? Enfin, Jésus dit que vos lampes soient allumées. Donc c'était des lampes à huile, hein, bien sûr. Et l'huile, on sait, dans la Bible, c'est une image du Saint-Esprit. Et donc, avoir sa lampe allumée, eh bien, il y a l'idée d'avoir une communion avec Dieu par le Saint-Esprit, c'est vivre une relation qui est étroite avec Jésus, qui est dépendante de Jésus. L'apôtre Jean a dit, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son retour, son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. » Nous n'ayons pas la honte d'être trouvés éloignés de lui. Hein, c'est aussi ce sens. Et être avec sa lampe qui est éteinte ou allumée, eh bien, on le voit dans cette idée de demeurer en lui. Est-ce que je demeure en Jésus-Christ? C'est ça qui est important. Ou bien ma vie avec le Seigneur, elle est distante. Elle est en pointillé. Elle est fragile, épisodique. De temps en temps, je suis très près. Et puis, après, pour un bon moment, je suis éloigné du Seigneur. Il dit, si c'est le cas, si on est éloigné de lui, alors, eh bien, on sera humilié. On aura la honte d'être loin de lui. Pour être prêt pour son retour, il faut demeurer en lui. Il faut savoir que Dieu nous a donné, il le dit, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a donné tout. Il nous a donné sa grâce, il nous a donné son esprit, sa force, son esprit qui est une puissance. Il nous donne la capacité de vivre pour lui. Et donc, on n'aura pas d'excuse. C'est à nous de dire, oui, je veux, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à vivre avec toi. Ça passe par la prière. Aide-moi, Seigneur. Demeurez en lui, obéissant, sensible à la voix du Saint-Esprit. Vivre le retour de Jésus dans une parfaite dépendance du Saint-Esprit, ça sera le bonheur. Vivre le retour de Jésus éloigné, sourd, insensible au Saint-Esprit, ça sera une honte pour nous, enfants de Dieu. Maintenant, avoir de l'huile en soi, ce n'est pas uniquement valable pour nous chrétiens qui attendons son enlèvement, son retour. Dans la tribulation, eh bien, il est dit qu'il faudra avoir de l'huile dans sa lampe, de l'huile en soi. Et là, eh bien, il illustre avec cette parabole des vierges sages et des vierges folles. Et donc Jésus raconte toute cette histoire, des vierges sages qui avaient de l'huile dans leur lampe, tandis que les vierges folles n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Et c'est vraiment pour ceux qui seront dans la tribulation. C'est-à-dire ceux qui seront occupés voilà, approchez-vous de Dieu, à chercher Dieu dans ce temps difficile où il y aura tous ces jugements. Ils aspireront à la délivrance en Dieu. Ils espéreront vraiment que Dieu intervienne et fasse quelque chose. Regardez Matthieu 25, 6 à 13. Matthieu 25, 6 à 13. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent !» Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous !» Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Et celui qui n'a pas d'huile, il n'a pas de relation. Il est endormi, il est loin de Dieu, pas de contact avec l'Esprit de Dieu, il ne se soucie pas de Dieu. Et quand Jésus arrive, il dit, « Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » Et donc, on voit que dans tous les cas, il faut avoir de l'huile, il faut avoir le Saint-Esprit. Est-ce que, eh bien, on a le Saint-Esprit ? Est-ce qu'on vit cette relation avec Jésus-Christ ? C'est vrai, c'est concret dans notre vie. Ou bien, voilà, ça nous paraît loin, distant. Et si on cherche, eh bien, comment ? Je l'ai dit tout à l'heure aux enfants, mais je le redis. C'est par la foi, c'est par la repentance. C'est par le fait de dire, Seigneur Jésus, je me sens loin de toi. J'ai pas l'impression d'être sauvé. J'ai pas l'impression d'avoir le Saint-Esprit. S'il te plaît, sauve-moi. Pardonne mes péchés. Je crois en toi. Donne-moi ton esprit. Fais de moi ton enfant. Par un acte de foi, une repentance, alors Dieu le fait. Ça devient réel. Ça devient concret. L'Esprit descend et remplit notre cœur. Et là, la porte du ciel est ouverte. Ouverte pour nous. Matthieu 24, verset 45. Il dit, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Et on raconte qu'autrefois, quand il y avait une maison avec des esclaves, parfois le maître choisissait un esclave et lui assignait la responsabilité en disant « Mais c'est toi qui es responsable maintenant. C'est toi qui dois faire en sorte que tout se passe bien et qu'à mon arrivée, eh bien, je te trouve voilà, t'occupant de la maison. » Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Et à son retour, l'important, ce sera simplement d'être fidèle, d'être trouvé fidèle. C'est-à-dire toujours à son poste, en train de l'honorer, prenant soin des autres croyants. Et c'est la fidélité qui sera vraiment importante. Il y a un commentateur de la parole de Dieu qui dit que, je trouvais ça intéressant, que l'accent n'est pas mis sur l'habilité du serviteur, mais surtout sur la fidélité du serviteur. Il persévère dans ce qui lui a été confié. Il fait ce que Dieu lui demande. Voilà, il est fidèle. N'abandonne pas. Tout comme par exemple dans l'histoire des talents, qui est dans le même passage de Matthieu 25, celui qui rapporte 2 talents, eh bien, il reçoit la même récompense que celui qui en rapporte 5. C'est pas le nombre de talents qui compte. Ça n'a pas d'importance. C'est la fidélité à ce que Dieu nous confie. L'important, c'est d'être fidèle. Il dit « Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. » Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Ça, c'est une allusion au service, à la récompense, grand service que Dieu donnera à ceux qui entreront dans le millénium. Voilà, il l'établira sur tous ses biens. Il y aura vraiment une récompense pour les serviteurs fidèles. Et donc, l'important, c'est de ne pas se laisser surprendre, c'est d'être prêt. Maintenant, nous qui l'attendons pour l'enlèvement, Eh bien, Jésus nous dit aussi que nous régnerons avec lui. Si nous persévérons, alors eh bien, nous allons régner aussi avec lui, certainement d'une autre manière, mais nous allons régner avec lui dans le millénium. Mais j'aimerais terminer par Matthieu 24, verset 48. Il dit, « Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et là, c'est le cas de quelqu'un qui n'attend pas le retour de Jésus. Le maître a tardé. Alors, est-ce que Jésus va revenir, hein? Vrai, tout ce que la Bible dit est vrai, mais il ne le croit pas vraiment. Alors, eh bien, il ne se soucie pas, il préfère vivre, profiter, voilà, fait des enfants, on mange, on boit, on se marie, on fait plein de projets. Bon, il faut faire des projets dans la vie, mais on fait plein de projets ici sans envisager le retour du Seigneur. Et sans avoir égard à ceux qui nous entourent. On est un hypocrite. On joue un double visage. À l'avant, on paraît bien, mais par derrière, eh bien, il y a plein de choses qui ne vont pas. Il est dit, le retour du Seigneur le surprend. Il est mis en pièces. Pleurs, grincements de dents, parce qu'il est jeté en enfer. Et on ne pourra pas mimer la foi avec le Seigneur. Ce n'est pas possible, ça. Soit, eh bien, on a cette foi authentique, parce que, eh bien, on croit ce que la Bible dit, parce qu'on s'est repenti et qu'on l'accepte dans notre cœur, soit il n'y aura pas la foi. Jésus dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Le retour de Jésus, c'est la vérité. Il vient bientôt. Et je terminerai juste par une petite illustration. C'était un directeur d'école en primaire qui a dit, je vais passer et je vais inspecter dans le futur vos casiers. Donc c'était des enfants, hein, et je vais voir qui a bien rangé son casier, et il y aura des récompenses pour ceux qui auront bien travaillé. Il y a une petite fille qui a dit, mais quand vous allez venir? Ah là, ça je ne vous le dis pas, vous verrez bien. Alors eh bien, elle s'est dit, moi je vais gagner la récompense. Et la maîtresse a dit, tu as du travail, hein, parce que ton casier, il n'est pas bien rangé aujourd'hui. Et puis elle s'est dit, mais je vais le ranger chaque premier jour de la semaine. Et la maîtresse lui a dit, mais s'il arrive le dernier jour de la semaine? Bon, je vais le ranger tous les matins. Mais s'il passe un soir? Alors, silence. Bon, je vais le ranger tout le temps. Je vais me tenir prêt. Et c'est un peu ça, hein. Le Seigneur veut qu'on soit prêt, qu'on soit vraiment prêt, dans l'attente, et que chaque matin, chaque soir, on soit, voilà, tout est en ordre. On est en train de faire ce que Dieu veut. On est en train de marcher avec Jésus.